Chères auditrices, chers auditeurs, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Ce jour, nous parlerons de la parole de vie. Normal sur FM Évangile 66, dite la radio de la vie. Nous le savons, il y a des paroles qui font du bien. D'autres, au contraire, sont dévastatrices. Il est donc important, je dirais même vital, pour chacun de nous, de bien choisir quelles paroles nous voulons écouter. Enfin, je me souviens de mon père dire en catalan, lorsqu'il entendait parler sur une radio française, le caudillo, c'est-à-dire Franco dont il avait fui le régime, dire donc, en fermant la radio, « Tais-toi, menteur !» Et il était ravi de lui avoir coupé la parole. La question est primordiale. À qui pouvons-nous faire confiance? Qui croire? On entend même dire « Les promesses électorales n'engagent que ceux qui les écoutent. » Sous-entendu, pas ceux qui les font. Bien-aimé, l'Écriture déclare, je lis Nombre chapitre 23, verset 19, « Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il promet, il le réalise. » Voilà une valeur sûre. Dieu ne ment pas, et ce qu'il promet, il l'accomplit. Notre responsabilité, comme le précise l'apôtre Paul à Timothée, prédicateur de l'Évangile, c'est de transmettre correctement la parole de la vérité, ou comme Paul l'écrit aux chrétiens de la ville de Colosse, c'est de présenter la parole de vie, à charge pour ceux qui écoutent, de la recevoir avec foi, comme étant la parole de Dieu. C'est cela que souligne l'apôtre Paul en faisant l'éloge de la foi des chrétiens de la ville de Thessalonique. Je cite 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13 « Nous remercions sans cesse Dieu pour une autre raison encore. Quand nous vous avons annoncé la parole de Dieu, vous l'avez écoutée et accueillie, non comme une simple parole humaine, mais comme la parole de Dieu, ce qu'elle est réellement. Ainsi, elle agit en vous, les croyants. Bien-aimés, il vaut la peine de croire Dieu, non pas seulement de croire en Dieu, mais de croire ce que Dieu dit. Oui, nous avons tout à gagner à prendre Dieu au mot, si l'on peut s'exprimer ainsi. C'est ce que Jacob, descendant d'Abraham et d'Isaac, a fait à un moment crucial de sa vie. Voici en quels termes il s'est adressé à Dieu. Je lis Genèse chapitre 32, verset 9 et suivant. Ensuite Jacob pria, « Ô Dieu de mon grand-père Abraham, de mon père Isaac, tu m'as dit, retourne dans ton pays auprès de ta famille, j'agirai et tout ira bien pour toi. Seigneur, je ne suis pas digne de toutes les faveurs que tu m'as accordées avec tant de fidélité, à moi ton serviteur. Je n'avais que mon bâton quand j'ai traversé le Jourdain, et maintenant je reviens avec ces deux groupes. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur de lui. Je crains qu'il vienne me tuer avec les femmes et les enfants. Souviens-toi que tu m'as dit, j'agirai, tout ira très bien pour toi. Je rendrai tes descendants innombrables, comme les grains de sable au bord de la mer. » Jacob fait profil bas. « Seigneur, je ne suis pas digne de toutes les faveurs que tu m'as accordées. » Et il prend soin, à deux reprises, comme si besoin en était, de rappeler « Ô Dieu, tu m'as dit !» Car Jacob a grandement peur de son frère jumeau Ésaü. Pourquoi en est-il ainsi? Retour en arrière. 20 ans plus tôt, Jacob, qui est le cadet, mais la science aujourd'hui nous apprend qu'en réalité c'est lui l'aîné, Jacob est fortement désireux de la bénédiction afférente au droit d'aînesse, lui reconnaissant une très grande valeur, tandis qu'Ésaü ne saura pas en discerner l'importance, car dans un premier temps, il accepte le marchandage de son frère Jacob et le vend pour un plat de lentilles. Jacob, avec la complicité de sa mère, use ensuite d'un subterfuge pour abuser son vieux père et lui arrache la bénédiction patriarcale revenant à l'aîné. Peu après, Ésaü découvre le pot aux roses, et se disant que la mort de son père ne va pas tarder, il décide de se venger en tuant son frère. Quand Rebecca apprend les intentions de son fils, il fait appeler Jacob et lui dit « Attention, ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, écoute-moi bien, mon fils. Pars d'ici. Fuis chez mon frère Laban, à Haran. Tu resteras chez lui quelque temps, jusqu'à ce que ton frère se calme, que sa colère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu as fait. Alors je t'enverrai chercher là-bas. Je ne veux pas vous perdre tous les deux le même jour. » 20 ans ont passé. Jacob est conscient que rien n'est oublié, surtout quand il apprend les intentions d'Ésaü. Il a envoyé des ambassadeurs pour annoncer son retour et recevoir un bon accueil, mais ceux-ci reviennent et annoncent « Il marche à ta rencontre avec 400 hommes ». Jacob est dans la crainte malgré les divers présents envoyés pour apaiser la fureur d'Ésaü. Dans Proverbes chapitre 18, verset 19, nous lisons ceci. « Un frère offensé est plus difficile à aborder qu'une forteresse. Les disputes sont aussi tenaces que les verrous d'un château. » Jacob en a pleinement conscience. C'est pourquoi il cherche la protection divine. « Souviens-toi que tu m'as dit. » Jacob a besoin d'un miracle, d'une intervention surnaturelle. Et ce qu'il va découvrir, c'est que dans sa propre vie, il a aussi besoin d'un miracle, d'un changement. Cette nuit-là, dans ce lieu qu'il va nommer Pénuel, il va avoir un face-à-face avec Dieu dont il sortira vainqueur tout en étant brisé, car il a reçu un coup à l'articulation de la hanche et celle-ci s'est déboîtée. Changement de situation qui se traduit par un nom nouveau. Désormais, il se nomme Israël, c'est-à-dire lutteur avec Dieu, et non plus Jacob, trompeur, celui qui supplante. Bien-aimé, nous avons là une illustration de l'expérience évoquée par Jésus lorsqu'il s'adresse à Nicodème, docteur de la loi, venu le rencontrer de nuit. Je lis Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Une première mention relative à la nouvelle naissance est déjà donnée au chapitre 1er de l'évangile de Jean, lorsqu'il est fait mention de Jésus, le Verbe incarné, venu chez les siens. Je lis versets 12 et 13. « Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. » Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne le sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Bien-aimés, le grand risque, c'est de l'ironie. En écoutant la parole de Dieu, c'est de la croire et de devenir enfants de Dieu, et par là même, recevoir une nouvelle vie. Suite à un enseignement donné par Jésus dans la synagogue de Capernaum, il y a eu incompréhension et divergence parmi les disciples de Jésus, de sorte que beaucoup ont dit, je cite, « Là, il exagère. Comment admettre un tel discours ?» Dès lors, beaucoup de ses disciples se sont retirés et ont cessé d'aller avec lui. Jésus a demandé alors aux 12, je cite, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Réponse de Simon-Pierre. « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. » Oui, Jésus a les paroles qui donnent la vie éternelle. C'est la puissance de l'Évangile. Nous l'avons dit en commençant cette émission, il y a des paroles qui font du bien. D'autres, au contraire, sont dévastatrices. Elles sèment le doute, sont parfois un véritable poison pour l'âme. Avec un peu d'humour, voici un exemple pour illustrer cela. Deux commères bavardent sur la place du marché, et l'une de dire à l'autre « Sais-tu où était ton mari hier après-midi ? Aussi, quand le brave homme rentre le soir, il se fait apostropher sans ménagement. « Où étais-tu hier après-midi ?» Et le brave Jules, dont la journée de travail a été harassante et catastrophique, n'est pas d'humeur à s'expliquer. D'une manière bourrue, il dit « Cela ne te regarde pas. » Alors, ça y est, elle en est sûre. Sûre de quoi ? Dans sa pensée, il était avec une autre femme, alors qu'il n'en est rien. Au contraire, la parole de vie produit la foi par le moyen de laquelle nous saisissons les promesses de Dieu. Puisque Dieu parle, puisque Dieu a dit, alors nous, nous croyons, point. Et ainsi nous expérimentons toute la puissance de sa grâce, comme dans l'Évangile. Nous en verrons plusieurs exemples après une page musicale que nous écoutons maintenant. L'avons dit, la parole de Dieu devient efficace dans notre vie quand nous la recevons comme telle, comme une parole directe de Dieu pour nous, pour toi, pour moi. Elle devient parole vivifiante, aujourd'hui comme hier. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Voyant deux barques près de la rive et les pêcheurs qui en étaient descendus, Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et le pria de s'éloigner un peu du bord. Assis dans la barque, Jésus a enseigné la foule. Son discours terminé, il dit à Simon ceci, je cite, « Avance plus loin, là où l'eau est profonde, puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Simon répond, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. » Et ils les ont jetés, et la pêche a été extraordinaire, au point que leurs filets commençaient à se déchirer. Le professionnel expérimenté qu'était Simon Pierre n'a pas argumenté sur le meilleur moment pour jeter les filets. Il a simplement fait ce que Jésus disait, c'est cela la foi. Parce que je crois, j'agis. Et quand je prends appui sur ce que Dieu dit, je ne suis pas confus. Bien-aimé, quel puissant encouragement pour nous aujourd'hui que cette parole de l'Écriture. Je lis Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Autrement dit, ce qu'il a fait hier dans l'Évangile, pour ceux qui ont croisé sa route, il le fait maintenant encore. Et aujourd'hui, bien-aimé, Jésus croise ta route. Alléluia. au chapitre 9 de l'évangile de Jean, il est fait mention d'un homme, aveugle de naissance, près duquel Jésus est passé. Et parce que cet homme a cru la parole que Jésus lui a donnée, il a été guéri de sa cécité. Cela a généré de l'effervescence, d'abord chez ses voisins. Les uns disent « C'est celui qui se tenait assis et qui mendiait ». D'autres disent « Non, mais il lui ressemble ». Mais lui affirme « C'est bien moi ». Et il leur explique ce qui est arrivé. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit « Va au bassin de Siloé et lave-toi ». J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Cela s'est fait un jour de sabbat doux, nouvelle effervescence, car le voilà face aux pharisiens. Interrogé, il répond « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Et comme pour les voisins, divergence de perception parmi les pharisiens. Les uns disent « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. » Mais d'autres disent « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux ?» On interroge à nouveau l'aveugle « Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Réponse « C'est un prophète. » Nouvelle réaction des pharisiens qui disent « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Réponse « S'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, et maintenant je vois. » Et comme ils reviennent à la charge, il leur répond « Voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Furieux, il l'excommunie. Jésus apprend qu'ils l'ont chassé. En le rencontrant, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Réponse « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterne devant lui. Alléluia ! Bien-aimé, deux choses à souligner. Premièrement, Jésus donne une parole à cet aveugle. « Va au bassin de Siloé et lave-toi. » Le prophète Ésaïe fait mention des eaux de Siloé et précise que le peuple les a méprisées parce qu'elles coulent doucement. L'aveugle ne discute pas la pertinence de la parole reçue. Aussi, il peut se réjouir. « J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. » Tout simplement. Deuxième remarque, cet homme découvre progressivement qui est Jésus. Il dit d'abord « L'homme qu'on appelle Jésus. » Puis, c'est un prophète. Et enfin, il découvre le Fils de Dieu. Oui, la parole de vie nous amène à la révélation du Fils de Dieu. Dans l'exemple qui suit, la guérison a lieu dans la synagogue, car Jésus y croise un homme dont la main est paralysée. Les pharisiens observent attentivement Jésus pour voir s'il va le guérir le jour du sabbat, car ils veulent l'accuser. Jésus dit à l'homme dont la main est paralysée, « Lève-toi là, devant tout le monde. » Puis il demande à ceux qui regardent, « Que permet notre loi, de faire du bien le jour du sabbat ou de faire du mal, de sauver la vie d'un être humain ou de le laisser mourir ?» Pas de réponse. Jésus les regarde tous avec indignation. Il est en même temps profondément attristé qu'il refuse de comprendre. Alors il dit à l'homme, « Avance ta main. » Il l'avance et sa main redevient saine, tout simplement. Bien-aimé, je le redis, il est vital de bien choisir quelles paroles nous écoutons. Plusieurs risques sont devant nous. J'en mentionne trois. Les charmeurs dont la parole flatte notre oreille, la tradition qui peut nous emprisonner, et notre apathie. L'apôtre Paul l'a écrit à Timothée. Le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. Attention donc, car la demande suscite l'offre, et les charmeurs sont nombreux. Suivons donc l'exemple des croyants de la ville de Bérée, dont il est dit, je cite, « Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Et cet exercice est aussi utile à faire la part des choses quand nous sommes face aux traditions. Des chefs religieux ont interpellé Jésus en ces termes. Je cite, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Réponse de Jésus, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Le troisième risque vient, devinez. Réponse, de nous-mêmes. L'apôtre Jacques a dit, « Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. » Bien-aimés, en terminant cette émission, pour ce qui concerne la parole de vie, je vous dis simplement, écoutez, croyez, agissez. Car le Seigneur qui vous aime est près de vous et veille sur sa parole pour lui donner son accomplissement. Amen.